Le livre de Job, au chapitre 33. Job 33. Au verset 14. Job 33, 14. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Voilà ce que dit la Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle par sa parole. Il parle par des songes. Il parle à travers des circonstances. Il parle à travers les événements. Il parle de plusieurs manières. Et l'on n'y prend point garde. Et pourquoi parle-t-il? La Bible dit qu'il parle afin de donner des avertissements. Des avertissements. C'est ça le thème de notre prédication. C'est la suite de celle du dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons parlé de la certitude du jugement. Il y a un jugement qui aura lieu à la fin du monde. Et cette fin du monde est certaine. Et c'est une certitude qu'il y aura le jugement. Et nous avons expliqué que le mal qui se fait dans ce monde sera sanctionné. Donc les gens qui font le mal, ils s'en sortiront pas comme cela. Parce que le mal gâche la vie de beaucoup de personnes. Les drogues, les divorces, le mensonge, la mafia, la jalousie, l'orgueil, ça détruit la vie de beaucoup de gens. La magie, ça détruit la vie de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui se demandent si Dieu existe à cause des dégâts que font les gens qui sont dans le mal. Ils font tellement de dégâts que les gens se demandent, est-ce que Dieu vraiment existe? Alors Dieu prouvera un jour qu'il existe en sanctionnant le mal. Maintenant, l'erreur de croire, c'est de croire qu'il sanctionnera que des criminels, c'est-à-dire les gens qui ont tué. Non, il sanctionnera tous ceux qui font le mal. Parce qu'il y a un proverbe en français qui dit « Qui a volé un œuf, volera un bœuf. » Donc, que l'on vole un œuf, qu'on le vole un bœuf, on est voleur. Donc, tous ceux qui font le mal sont en abomination devant Dieu parce que c'est eux qui détruisent la vie, l'amour, la bonté que Dieu a créée dans le monde. Et ils seront sanctionnés, ils seront jugés. Personne n'échappera au jugement. C'était la première raison qu'on avait donnée. On avait donné aussi d'autres raisons. On avait dit que tout homme a la vérité de Dieu dans son cœur et il le cache, il la cache. C'est écrit dans Romains, au chapitre 1er, que la colère de Dieu est sur tout homme qui cache la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu existe. Ce n'est pas, on n'a pas besoin d'en faire la démonstration, il existe. Et l'homme cache cette vérité. Il préfère se comporter selon sa logique à lui, en se disant, non, je ne crois pas que Dieu existe. En réalité, il croit, mais il ne veut pas de Dieu parce que Dieu sera son chef. Effectivement, si tu as un créateur, forcément tu dépendras de ce créateur-là. Alors, il ne veut pas savoir qu'il a un créateur alors qu'il le sait. Alors, il préfère faire l'hypocrisie, dire qu'il n'en a pas pour pouvoir faire comme il veut. Mais en réalité, dans son cœur, il sait que tout ce que nous voyons ne peut pas venir du hasard. Et la Bible dit, tous ceux qui cachent cette vérité-là, sous prétexte qu'ils sont jeunes, il y en a qui se disent, j'ai encore 13 ans, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai le temps. Eh bien, tous ceux qui se cachent cette vérité-là, sous prétexte qu'ils sont jeunes, sous prétexte qu'ils ont le temps, bien, tu ne maîtrises pas le temps. Le jugement peut tomber d'un instant à l'autre et tu n'échapperas pas. La Bible le dit parce que tu caches la vérité de Dieu dans ton cœur pour ne pas la pratiquer. Et on avait donné une raison, la raison principale c'est quoi? C'est Jésus. Jésus est le cadeau de Dieu pour le salut de tout homme. Alors Dieu, l'ayant donné gratuitement, Dieu ayant supporté que son propre fils soit frappé, injurié, tapé à notre place et jusqu'à être crucifié comme un simple animal, comme un bandit, comme un vulgaire criminel. Dieu a supporté ça pour que nous nous soyons sauvés. Alors, qui est-ce qui peut échapper au jugement s'il néglige le salut par Jésus-Christ? C'est un salut tellement facile, tellement facile. On te dit tout simplement que viens tel que tu es, Dieu va avoir pitié de toi, te pardonnera et te donnera une nouvelle vie par Jésus son Fils, par la puissance de la résurrection. Cette nouvelle vie t'aidera à marcher selon la volonté de Dieu. C'est un salut tellement facile que quiconque va le rater sera frappé par le jugement. Alors, bien aimé, ce jugement-là est certain. Et Jésus nous l'a dit. Si lui qui est le bois vert, on l'a maltraité ainsi, quand sera-t-il du bois sec? Si lui, le bois vert, pendant qu'on l'a mené à la croix, Jésus-Christ souffrait. Et il y a des femmes qui pleuraient. Jésus a dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Moi, ce qui m'arrive, je le savais. Ce qui m'arrive, je l'ai fait pour l'humanité. Ça a été prévu. Ce qui m'arrive ne se terminera pas là. Je ressusciterai. Mais pleurez plutôt pour vos enfants. Pleurez plutôt pour vous-même. Parce que si on me fait ça, si moi je souffre, ben quand sera-t-il des mauvais? Quand sera-t-il des gens qui négligent ma parole? Bien-aimé, le jugement sera terrible. Ça sera terrible et c'est une certitude que personne ne se trompe. Que personne ne pense qu'il est, elle est inexcusable. Ou bien ton cousin, ton ami qui semble bon, il est excusable parce qu'il t'a donné 10 000 euros. Non. Si quelqu'un ne passe pas par Jésus-Christ, il n'est pas excusable. Parce que c'est un cadeau tellement gratuit, tellement facile. Jésus, c'est une vérité tellement facile à voir, à constater. Jésus-Christ a calmé la tempête. Il a dit à la tempête, silence, la tempête s'est calmée. Il a marché sur l'eau. Jésus-Christ a ressuscité des morts. Il a donné la vue aux aveugles. Jésus-Christ a multiplié les pains. Il y avait 5 pains. Il les a multipliés, ça a nourri plus de 5 000 personnes. Jésus-Christ a démontré tellement qu'il était Dieu que les gens qui refusent Jésus seront sanctionnés. Et c'est la majorité. Parce que Jésus-Christ aussi était venu simplement comme un homme. Tout simple. Il n'est pas venu avec des apparats extraordinaires, avec la toge de Superman. Non. Il est venu habillé comme tout homme, parlant simplement. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on a négligé. Mais en même temps, il a démontré les faits qui prouvent réellement qu'il est Dieu. Et que ce qu'il disait, il ne fallait pas prendre à la légère. Aujourd'hui, nous parlons des avertissements. Le dimanche passé, on a dit, le salut est certain et le jugement est certain. Il y aura un jugement. Et ceux qui passeront dans ce jugement-là, iront brûler éternellement dans le feu. Mais aujourd'hui plutôt, nous voulons parler des avertissements. Dieu ne jugera pas les gens par surprise. Il l'avertit. Il donne des avertissements. Ce n'est pas par surprise. Vous savez, quand on va sur l'autoroute, avant d'arriver au radar, il y a un grand panneau qui dit « Attention, il y a... » Ça s'appelle des... ils écrivent pas radar. Ils écrivent quelque chose qui relève la vitesse automatiquement. J'ai oublié le nom. On te donne... C'est un grand panneau, plus grand que le radar. Vous voyez? Pour que tu n'aies pas d'excuses. Déjà, tu es en tort. On pourrait ne pas mettre ce panneau-là. Mais pour t'aider, on met les grands panneaux. attention, il y a des appareils qui prennent la vitesse automatiquement. C'est écrit. Maintenant, si malgré ça, tu te fais attraper, qu'est-ce que tu vas aller dire au juge? Je n'avais pas vu. On te dira, mais déjà, on n'est pas obligé de te dire, de te prévenir qu'il y a un radar. On n'est pas obligé, parce qu'il suffit. Il y a d'autres panneaux qui montrent un cercle rouge, un disque avec un cercle rouge, 130, ça veut dire que tu ne dépasses pas 130. On n'est pas obligé de te le dire. Tu as déjà ces panneaux-là. Mais pour t'aider, on rajoute un grand panneau qui te prévient qu'il y a un radar. Le juge va te dire, monsieur, vous n'avez aucune excuse. Effectivement, Dieu va avertir et il avertit afin que personne n'ait d'excuse. Dieu avertit. C'est pourquoi on a commencé par ce texte qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il avertit par des songes. Les gens, tu rêves des choses. Je connais des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont rêvé, qui ont vu des événements à venir. Qui ont vu le feu tomber du ciel. Qui ont vu des choses étranges. C'est Dieu qui les prévenait. Dieu prévient par des circonstances qui vont te faire réveiller pour te montrer que tu es en erreur, tu es en danger. Dieu prévient surtout par sa parole. Il envoie des messagers pour annoncer sa parole, pour prévenir. De sorte que personne ne dise, j'étais pas au courant. Que personne ne le dise. Et nous allons voir dans la Bible certains avertissements que Dieu a donnés et les gens n'ont pas suivi et ils ont été frappés. Sachant que si ces gens-là ont été frappés, je veux dire pour des petits avertissements. Ça veut dire des avertissements qui concernaient la terre. Le Fils de Dieu n'était pas encore martyrisé. Il n'était pas encore crucifié. Il n'était pas encore tapé. Il n'était pas encore fouetté. Ces gens-là ont été sanctionnés durement. Mais maintenant, à combien plus forte raison pour ceux qui vivent le temps où le Fils de Dieu est déjà mort, crucifié, martyrisé, fouetté, injurié et ressuscité. Ça sera comment? C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 10, qu'on a lu pour clôturer le dimanche passé, que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu ayant refusé la grâce par Jésus-Christ. Ça sera encore plus grave. Nous lisons dans le livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 3. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 3. Donc l'histoire, c'est Samuel qui est un enfant miraculeux que le Seigneur a donné à une femme stérile. Et cette femme a donné cet enfant à Dieu, pour qu'il soit élevé dans le temple pour servir le Seigneur. Pour qu'il soit élevé dans le tabernacle, enfin dans le lieu où les sacrificateurs habitaient, se réunissaient pour pouvoir servir le Seigneur. Et au verset 19, on nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça, c'est le verset 19. Mais nous allons d'abord, après avoir expliqué qui est Samuel, nous allons d'abord lire les avertissements que Dieu donne au sacrificateur Élie qui a récupéré Samuel pour le faire grandir. Nous lisons au chapitre 2, au verset 12, il est écrit ceci. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant en la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière. dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Voilà les enfants d'Élie, le sacrificateur, qui se comportent mal et qui volent les viandes que les gens amènent pour sacrifier. Ils prennent même parfois de force. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. On passe au verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc des gens viennent carrément à l'endroit où on prie Dieu et ces garçons prennent ces femmes pour faire des choses avec. Verset 23, il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Voilà comment Dieu agit maintenant. Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, donc mourront jeunes. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Amen. Alors, Dieu envoie un homme de Dieu. La Bible dit, un homme de Dieu est venu. Donc, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. On ne cite pas son nom. Alors, souvent, Dieu va parler par des anonymes, des gens qui ne sont pas célèbres. Nous, on attend que ce soit l'homme le plus célèbre qui vient nous dire attention. Mais Dieu va parler par des gens qui ne sont pas célèbres, des anonymes. Quelqu'un que tu trouves faible, mais Dieu va l'utiliser pour venir te prévenir. Tu te diras, mais oui, mais qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie, cette personne-là? Qu'est-ce que... Il n'a aucune importance dans ma vie, il n'a aucun poids, ce n'est pas mon père, ce n'est personne. Voilà. Mais Dieu utilisera ce n'est personne pour venir te parler. Et un homme de Dieu est venu voir Élie. Élie, c'était l'homme de Dieu le plus important de son époque. Mais quelqu'un d'autre vient le voir, qui est aussi de Dieu, et lui dit, attention, Dieu a vu ce que tu fais, parce que tu préfères tes fils à lui. Parce que ce que font tes fils, tu aurais dû les juger, tu aurais dû intervenir. Mais tu ne fais que des petits avertissements de rien du tout, tu ne prends pas de sanctions par rapport à tes fils. Eh bien, je te retranche de mon sacerdoce, je te retranche de mon plan, ainsi que ta famille, je garderai qu'une personne. Les restes vont commencer à mourir jeunes, parce que vous avez méprisé mes offrandes, vous avez méprisé mon travail. Et cet homme-là, il parle à Élie et le prévient que Dieu va susciter quelqu'un d'autre à sa place. Voilà l'avertissement. Il est donné. Nous continuons. Verset chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Élie est encore averti. Mais comme toute réponse, il trouve un moyen de faire de Dieu un méchant. Il dit, « Bon, c'est lui, Dieu Tout-Puissant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, de toute façon, il a prévu cela. » Voilà, c'est comme cet homme-là, à qui on avait donné un talent, il a enterré, Il a dit, quand on lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas fructifié? Ah oui, mais je savais que tu étais un maître dur. Si je fructifiais, que ça ne marchait pas, j'allais avoir des problèmes, j'ai préféré garder. Et c'est le mensonge. En réalité, Élie n'avait pas le courage de prendre autorité sur ses enfants et de les chasser carrément de la maison, de dire, vous quittez la maison, vous quittez le temple, vous quittez le sacerdoce. Il n'avait pas d'autorité. Il a préféré céder. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui disent, ah, c'est Dieu qui m'a créé avec ce corps de péché. Je vais faire comment? Je vais pécher seulement et puis je brûlerai plus tard. Bien-aimé, toi, tu connais ce que c'est que brûler sans mourir. Rien que le mal d'une dent, ce que ça fait. Quand tu souffres des dents, maintenant tu t'imagines brûlé. Et il n'y a pas de morphine pour te calmer. Essaie de prendre le fer à repasser, mets ta main pendant 5 minutes. Là. Tu vas comprendre ce que c'est. Et maintenant, puisque tu es faible dans le péché, tu te dis, bon, puisque c'est comme ça, puisqu'il est méchant, il ne nous aide pas, et moi je vais bien aimer. Ne te fais pas ces faux raisonnements pour condamner Dieu. Dieu a donné la solution. La solution, c'est son fils Jésus-Christ. Si tu es faible, Jésus est la solution. Il sait comment te sortir de ta faiblesse. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai la solution. Je vous donnerai la réponse. Bien-aimé. Alors on se dit, bon, on n'a pas le choix. Nous vivons une époque où les femmes sont trop belles. Bon, je vais tomber seulement. Ah, bien-aimé. Après, tu vas brûler éternellement parce que tu as trouvé les gens beaux ou belles. Non, la Bible nous dit fuyez le jugement. Comme on fuit la guerre, personne ne va dire, bon, puisque on nous a dit que les Russes arrivent dans 2 jours, je n'ai pas le temps de fuir comme il faut, je reste là, je les attends. Non. Les films de la Deuxième Guerre mondiale nous montrent des enfants, des mamans qui fuyaient avec des bébés, ils fuyaient. Ils n'attendaient pas que les Russes viennent les tuer, bien-aimés. Et un homme de Dieu est venu voir Élie. Élie, c'était l'homme de Dieu le plus important de son époque. Mais quelqu'un d'autre vient le voir, qui est aussi de Dieu, et lui dit, attention, Dieu a vu ce que tu fais, parce que tu préfères tes fils à lui. Parce que ce que font tes fils, tu aurais dû les juger. Tu aurais dû intervenir. Mais tu ne fais que des petits avertissements de rien du tout. Tu ne prends pas de sanctions par rapport à tes fils. Eh bien, je te retranche de mon sacerdoce. Je te retranche de mon plan. Ainsi que ta famille, je garderai qu'une personne. Les restes vont commencer à mourir jeunes. Parce que vous avez méprisé mes offrandes. Vous avez méprisé mon travail. Et cet homme-là, il parle à Élie et le prévient que Dieu va susciter quelqu'un d'autre à sa place. Voilà l'avertissement. Il est donné. Nous continuons. Verset chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Élie est encore averti. Mais comme toute réponse, il trouve un moyen de faire de Dieu un méchant. Il dit, « Bon, c'est lui, Dieu Tout-Puissant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, de toute façon, il a prévu cela. » Voilà, c'est comme cet homme-là à qui on avait donné un talent, il a enterré, il a dit, quand on lui a dit, « Mais pourquoi tu n'as pas fructifié ?»« Ah oui, mais je savais que tu étais un maître dur, si je fructifiais, que ça ne marchait pas, j'allais avoir des problèmes, j'ai préféré garder. » C'est le mensonge. En réalité, Élie n'avait pas le courage de prendre autorité sur ses enfants et de les chasser carrément de la maison, de dire, vous quittez la maison, vous quittez le temple, vous quittez le sacerdoce. Il n'avait pas d'autorité. Il a préféré céder. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui disent, ah, c'est Dieu qui m'a créé avec ce corps de péché. Je vais faire comment? Je vais pécher seulement et puis je brûlerai plus tard. Bien-aimé, toi, tu connais ce que c'est que brûler sans mourir. Rien que le mal d'une dent, ce que ça fait. Quand tu souffres des dents, maintenant tu t'imagines brûlé. Et il n'y a pas de morphine pour te calmer. Essaie de prendre le fer à repasser, mets ta main pendant 5 minutes. Là. Tu vas comprendre ce que c'est. Et maintenant, puisque tu es faible dans le péché, tu te dis, bon, puisque c'est comme ça, puisqu'il est méchant, il ne nous aide pas, et moi je vais bien aimer. Ne te fais pas ces faux raisonnements pour condamner Dieu. Dieu a donné la solution. La solution, c'est son fils Jésus-Christ. Si tu es faible, Jésus est la solution. Il sait comment te sortir de ta faiblesse. Il dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai la solution. Je vous donnerai la réponse. » Bien-aimé. Alors on se dit, « Bon, on n'a pas le choix. Nous vivons une époque où les femmes sont trop belles. Bon, je vais tomber seulement. » Ah, bien-aimé. Après, tu vas brûler éternellement parce que tu as trouvé les gens beaux ou belles. Non, la Bible nous dit fuyez le jugement. Comme on fuit la guerre, personne ne va dire, bon, puisque on nous a dit que les Russes arrivent dans 2 jours, je n'ai pas le temps de fuir comme il faut, je reste là, je les attends. Non. Les films de la Deuxième Guerre mondiale nous montrent des enfants, des mamans qui fuyaient, avec des bébés, ils fuyaient. Ils n'attendaient pas que les Russes viennent les tuer, bien-aimés. Il y en a qui pourraient se poser des questions pour dire, mais est-ce que Dieu vraiment avertit tout le monde? Dieu avertit tout le monde. C'est clair, il avertit tout le monde. Parce qu'il jugera tout le monde, alors il faut que tout le monde soit averti. Et si on néglige l'avertissement, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Si on néglige le panneau qui annonce les radars, ce n'est la faute de personne, c'est ta propre faute. 1 Roi au chapitre 13. Voici, là le contexte c'est quoi? Il y a un roi qui a décidé de faire sa propre religion. Un roi d'Israël décide de faire sa propre religion et de brûler des parfums à des idoles. Et Dieu lui envoie un prophète pour lui parler. C'est le roi Jéroboam. Pareil,
on ne va pas citer son nom. Vous voyez la technique de Dieu? On ne donne même pas son nom. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Mais, bien-aimé, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. » Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Voilà un autre exemple encore. Dieu envoie cet homme avertir le roi. Bien-aimés, nous voyons des présidents, nous voyons des rois. Dans notre tête, on se dit, mais quel est le pasteur qui est parti leur parler? Je peux vous dire que Dieu, pour tout le monde, envoie quelqu'un. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui vient te dire, voilà la vérité. Si tu ne changes pas, tu es en danger. Dieu peut parler aussi à travers des rêves, à travers des visions, à travers des songes. Tout le monde sera prévenu. Les avertissements, c'est pour tout le monde. Job 33, 14 nous l'a dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle pourquoi? Pour avertir les gens du danger à venir. Il parle, mais on prend les choses à la légère. Je nous donne des exemples de choses que Dieu a dites et quelqu'un a osé prendre à la légère et ça s'est accompli. Ce n'est pas parce que toi tu prends la légère que ça ne s'accomplira pas. Ça s'accomplira parce que c'est la parole de Dieu. Et là, l'homme de Dieu vient, il parle à Jéroboam. Jéroboam veut faire le roi, il dit saisissez-le. Son bras devient paralysé, bloqué. Il ne peut même pas le ramener à lui. Et l'autel se casse, comme le prophète avait dit. Et Jéroboam se rend compte que ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais bien aimé, comme on n'a pas le temps, je ne vais pas tout lire. Mais est-ce que Jéroboam a écouté malgré cet avertissement? Là, il fait le petit. Il dit, ah, prie pour moi pour que mon bras revienne. On prie pour lui, son bras revient. Dès que l'homme de Dieu s'en va, Jéroboam recommence encore pire qu'avant ses sacrifices envers les faux dieux. Et la Bible dit que ce que Dieu a prophétisé, quand vous lisez dans 2 Rois 23, ça s'est accompli exactement. Le roi Josias, quand il est venu, il a brûlé tous les ossements des prêtres qui faisaient ces choses-là. Ça s'est accompli exactement. Et la Bible nous montre, nous venons de lire, qu'est-ce que Dieu avait dit à l'homme de Dieu? Il ne faut pas manger à cet endroit-là et ne pas retourner par le même chemin. Cet homme-là, quand le roi lui a proposé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, je ne vais pas manger. Mais maintenant, quand il rentre sur le chemin de retour, si vous lisez la suite, qu'est-ce qui se passe? Un vieux prophète vient l'aborder. Il a appris son exploit, il vient pour s'associer à lui. Et qu'est-ce que dit le vieux prophète? Viens manger chez moi. L'homme de Dieu dit, non, on m'a interdit de manger chez qui que ce soit. Et le vieux prophète ment. Il dit quoi? Il dit, un ange m'est apparu et il m'a demandé de t'amener pour que tu viennes manger avec moi. L'homme de Dieu, impressionné par le fait qu'un ange soit apparu à l'autre, il l'a suivi. Et c'était pour sa chute. Et quand il a mangé, le même vieux prophète qui lui avait menti, cette fois-ci a prophétisé pour de vrai, pour lui dire que tu mourras sur le chemin de retour. Et sur le chemin de retour, notre homme de Dieu, qui venait de faire un bon exploit, qui venait de prêcher la vérité, lui-même est tué par un lion. Alors, bien-aimé, le jugement de Dieu s'abattra sur tout le monde qui négligera la parole de Dieu. Même si tu as été un grand pasteur, même si tu as été un grand évangéliste, même si tu pries beaucoup, le jugement de Dieu s'abattra sur tout le monde qui négligera la parole de Dieu. Jésus dit dans Matthieu, au chapitre 7, « Ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront du royaume de Dieu, mais seuls ceux qui pratiquent ma parole. » Il y en a qui disent, moi j'aime le Seigneur, hein, avec une certaine voix bien aimée. Il suffit pas d'aimer le Seigneur, hein, il faut pratiquer la parole. Est-ce que Dieu est ton maître? Est-ce que c'est lui qui décide sur ta vie? Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. On ne peut pas servir deux maîtres, il faut choisir. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et la mode. On ne peut pas servir Dieu et la magie. On ne peut pas servir Dieu. En même temps, tu as un petit fil avec quelques coquillages autour de tes hanches. On ne peut pas. En disant que c'est ma mère qui m'a donné. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Où tu es avec Dieu? Et tu restes avec lui ou tu vas avec d'autres personnes. On ne peut pas servir Dieu et un homme à la fois. Il y en a qui prient et qui ont fait de leur pasteur des dieux. On ne peut pas. Ou c'est Dieu ou c'est rien. On ne peut pas servir Dieu, je vais finir. Et soi-même, il faut choisir. Beaucoup sont leurs propres maîtres. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Tu lui lis un verset biblique, il dit, bon, moi je ne le reçois pas. Oh, mais c'est écrit. Tu te prends pour qui? C'est écrit là. Bien-aimé, Dieu avertit. Il avertit. Et l'homme de Dieu a été averti. Jéroboam a été averti. Tous ils n'ont pas entendu, tous ils ont subi le jugement. On ne dira pas parce que je suis chrétien. Non, si tu n'as pas écouté les avertissements, si tu n'as pas fait attention, si tu n'es pas entré dans le salut de Dieu, si tu n'as pas laissé Jésus diriger ta vie, tu seras confondu. Et c'est une réalité. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les gens se tiendront la tête. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous imaginez, tu es maintenant face à l'éternité, des milliards d'années. Maintenant, juste à cause des 120 ans sur la terre, tu gâches ça. Bien-aimé, je suis en train de lire un livre, qui parle de... Il s'agit d'un homme qui fait son témoignage. C'était un grand sorcier. Il a touché à tout, quoi. C'est un Américain. Il a touché au vaudou, magie noire, philosophie catholique, tout ce qu'on veut. Il a touché à tout. Bien-aimé, vous vous imaginez que ces gens-là sont dans une telle ignorance qu'on lui donne le diplôme de sorcier, mais on lui dit en même temps que Satan n'existe pas. Donc, il est sorcier sans Satan, bien-aimé. Alors, quelle ignorance! Mais toi, tu es au courant que dès qu'on dit sorcier, c'est Satan qui est derrière. Et tu négliges. Ils sont dans une telle ignorance qu'on leur dit que les chrétiens vont s'ennuyer au paradis en jouant à la harpe, nous en enfer, ça sera la boîte de nuit, ça sera le, ça sera la vie. Bien-aimé, déjà sur terre, tu n'as pas la vie. Toi qui écoutes ces bobards-là, est-ce que tu es heureux sur terre? Il ne te donne pas le bonheur sur terre, il te donnera en enfer. Mais la Bible nous dit que ça sera pire que ce que tu vis de difficile ici sur terre. Et l'enfer ne sera que l'avant-goût. Ensuite, il y aura le feu éternel où tu brûleras avec ton ami le diable et il ne pourra pas te secourir. De toute façon, il est mauvais. Donc, je te dis, la Bible nous avertit que Dieu jugera. Il y a un trou qui est prévu pour le diable. L'abîme, on va le lier pendant 1000 ans. Ensuite, on va le sortir et puis on va le jeter dans le feu. Et la Bible dit qu'il sera avec tous ceux qui le suivent. C'est une réalité. On peut toujours te faire croire qu'il n'existe pas. C'est sa grande stratégie. Il n'existe pas. Et donc, Hitler, quand il tue 6 millions de personnes, vous croyez qu'un homme peut faire ça de lui-même? Vous croyez qu'un homme peut avoir un mauvais cœur à ce point-là? C'est impossible. Un homme ne peut pas être mauvais à ce niveau-là. C'est impossible. Vous croyez que ceux qui violent des enfants de 8 ans, vous croyez qu'ils sont d'eux-mêmes mauvais à ce niveau-là? Non, c'est des esprits. C'est une réalité. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut choisir Dieu. Toi qui es informé, toi qui es averti et qui entends les choses clairement, c'est le moment d'entrer dans l'arche de Noé, qui est Jésus aujourd'hui. C'est le moment. Et Jésus nous a avertis dans Luc 21, dans Luc 17, dans Matthieu 24. Il nous a avertis des temps de la fin. Il dit qu'il y aura des crises. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y aura des famines. Il y aura toutes sortes de calamités, toutes sortes de catastrophes. Nous sommes en train de vivre cela. Jésus nous a prévenu que quand Israël retournera chez lui, eh bien, ça sera la fin. Et Israël est déjà retourné chez lui. Ça a fait plus de 2000 ans, il n'y avait plus de pays Israël. Aujourd'hui, en 1948, il y a eu un pays qu'on appelle Israël. Donc Israël est revenu. En 1967, Jérusalem a été récupérée totalement. Parce qu'en 1948, Israël n'occupait que la moitié de Jérusalem. En 1967, ils ont récupéré tout Jérusalem. Et Jésus avait prophétisé que jusqu'à ce que Jérusalem sera foulée par les nations, jusqu'à ce que le temps de la fin donc, arrive. Donc quand Jérusalem cessera d'être foulée par les nations, c'est là que le temps de la fin va arriver. Donc en ce moment, c'est les Juifs eux-mêmes qui ont récupéré Jérusalem. Donc Jérusalem n'est plus foulée par les nations. Donc le temps est arrivé. Nous sommes dans le temps de la fin. Les jugements se voient à l'œil nu. Dieu nous a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Il faut servir Dieu. Il y a des gens qui ont décidé de servir leur corps. Nous voyons les conséquences avec la chirurgie esthétique. Il y en a qui ne retrouvent plus leur... Ils vont faire les opérations. Ils se retrouvent compliqués et avec des produits bizarres dans leur corps. Et ils deviennent encore plus moches, bien-aimés. On a vu 3 personnes déjà ont oublié leurs enfants dans la voiture. Et ils sont morts. Et vous savez pourquoi ils les ont oubliés? À cause de l'argent. On a peur du patron. Il faut aller vite. Il faut faire le travail. Stressé. On laisse l'enfant à la nourrice. Et on croit qu'on l'a laissé chez la nourrice. Elle est restée dans la voiture. 3, vous vous imaginez? Quand Dieu prévient qu'on ne peut pas servir 2 maîtres, les gens disent, ah, moi j'aime l'argent, j'aime l'argent. Voilà, tu oublies l'enfant dans la voiture. Parce que tu as peur. Parce que ton travail compte beaucoup plus pour toi que l'enfant. Parce que tu aimes l'argent. Bien-aimé, Dieu prévient et nous voyons des petits jugements s'accomplir. C'est des annonces du grand jugement à venir. Nos comportements produisent des conséquences graves. La pédophilie, conséquence des jugements de Dieu parce que les gens négligent tout ce qui est pornographie, tout ce qui est image impure. On dit, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà la conséquence, la pédophilie, l'homosexualité. Voilà la conséquence. À tel point qu'un homme ose porter plainte contre la Bible aux États-Unis, qu'on lui donne 10 millions parce que la Bible dit que les homosexuels iront en enfer s'ils ne se convertissent pas. Voilà la conséquence. Et Jésus nous avait prédit que dans les temps de la fin, ça sera comme du temps du Sodome et de Gomorre. Et pendant Sodome et Gomorre, l'homosexualité était au top. Et nous arrivons au temps où l'homosexualité est tellement au top qu'un homme ose porter plainte contre des éditeurs de la Bible. Bien-aimé, c'est la réalité. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Ça fait qu'il y a des moments où on te donne un choix simple à faire et tu es en possession de tes moyens et tu peux faire erreur ou refuser. Mais nous sommes dans un temps où on n'a même pas le temps de réfléchir. On n'a qu'à s'accrocher. Tu es dans l'escalator qu'on appelle Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de monter, tu vois en dessous de toi des bijoux, tout ce que tu aimes, des crèmes glacées, des poulets rôtis, les mauvaises photos, les mauvais films, et tu as envie de redescendre. Et l'envie est tellement forte que je te conseille de t'accrocher seulement sur l'escalator. Tu appelles quelqu'un, ami, lis-moi sur cet escalator. J'ai envie de descendre. Je donne l'image de l'escalator parce que ce n'est pas toi qui monte. Il te fait monter. Jésus te fait monter vers le Père. Mais parfois, lorsqu'on regarde ce que les païens font, ils sont libres de faire leur vie. Ça nous donne envie. Accrochons-nous à l'escalator. Ne redescendons pas. Ne redescendons pas. Ça nous donne envie de nous fâcher. Parfois, on a envie de se battre encore alors qu'on a oublié ça depuis longtemps. Parce qu'il y a un événement qui a eu lieu. Parfois, un automobiliste qui passe, qui te fait un mauvais signe alors que tu ne lui as rien fait. On a envie de réagir, de doubler, de le dépasser aussi. Non, Jésus, je m'accroche à toi. Alléluia. Qu'on me lamine seulement, qu'il m'injure, ce n'est pas grave. Accrochons-nous à l'escalator. Sans nous en rendre compte, nous allons monter. Accrochons-nous. Jésus a dit dans Jean 15, demeurez en moi. Demeurez. Ça ne sera pas toujours un choix facile. Ah, je suis Jésus. Non. Parfois, ça sera, je fuis le jugement. Je fuis le mal. J'ai envie du mal, mais je fuis. Parce que ça va m'amener à ma mort. Voilà, bien-aimé. Et on s'accroche à l'escalator. On ne nous demande pas de courir. Accrochons-nous. L'escalator va nous faire monter tout seul. Accrochons-nous, bien-aimés. Ce n'est pas facile. Mais si on s'accroche, la Bible dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie est plus forte que la loi du péché et de la mort. Si on s'accroche, nous allons expérimenter ce verset-là. La loi de l'esprit de vie est plus forte. Bien-aimé, une loi agit indépendamment de toi. C'est ça une loi. Donc la loi de la pesanteur, ça fait chuter le corps sans que le corps décide. Mais de même, il y a une autre loi, la loi de l'esprit de vie, qui s'oppose à la loi de la pesanteur du mal et qui va te faire monter sans que tu le décides. Mais parce que tu as choisi une fois de suivre Jésus, tu t'es confié à lui, ça va te faire monter. Tu vas te surprendre en train d'aimer les autres. Tu vas te surprendre en train d'aimer la Bible. Tu vas te surprendre atteint de voir ce que tu considérais comme des plaisirs difficiles à lâcher. Tu vas les voir maintenant comme de la paille. Parce que la loi de l'esprit de vie, tu l'as laissé agir en toi. Accrochons-nous au Seigneur. Fouillons le jugement à venir. Amen.